Ouagadougou et à Conakry, 23h au Caire. Bienvenue dans Sahel Plus, préparé et présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, au sommaire de Sahel Plus. Deux policiers tués en Égypte alors que des djihadistes avaient annoncé avoir posé des bombes. Analyse, l'Union africaine attend-elle un financement de la communauté internationale pour que la FAA, la force africaine en attente, voit enfin le jour? Nous serons au Burkina Faso pour notre dossier.
En ce qui me concerne, j'attends rarement de rentrer en possession de ces droits-là parce que ça prend énormément de temps. Et donc, généralement, on s'entend au bord de la route puis on circule. L'assurance, c'est essentiellement pour ne pas avoir de problème avec la police.
Si les assurances automobiles sont obligatoires au Faso, les automobilistes ont bien du mal à se faire rembourser leurs sinistres. Enfin, en Guinée, les autorités sanitaires sollicitent l'aide des leaders religieux et des tradis praticiens dans la lutte contre le virus Ebola. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce micro. En Afrique du Sud, reprise du procès d'Oscar Pistorius, les experts psychiatres ont conclu qu'il était en pleine possession de ses facultés mentales lorsqu'il a tué sa petite amie en 2013, Lionel Gaïma.
Le procès avait été ajourné pour donner le temps à des experts médicaux de voir si Oscar Pistorius jouissait de toutes ses facultés mentales. C'est chose faite. Le procureur Guérinel a fait le résumé du rapport de quatre experts affirmant que M. Pistorius ne souffrait pas d'un trouble mental ou d'une infirmité qui l'aurait rendu pénalement irresponsable de l'acte dont il est accusé. Autrement dit, Oscar Pistorius est pénalement responsable. Accusé d'avoir consciemment tué sa compagne Reeva Steenkamp, Pistorius a plaidé non coupable et assure qu'il croyait avoir tiré sur un intrus. S'il est reconnu coupable, le champion paralympique est passible de la prison à perpétuité ou à 25 ans ferme de réclusion.
Attentat à la bombe en Somalie, la police et des témoins rapportent qu'une explosion s'est produite dans un marché de Mogadiscio, la capitale. On compte 2 morts et 7 blessés. La bombe était placée sous une pile d'ordures près d'un poste de police. Génocide rwandais, le général Augustin Bizumungu, ancien chef de l'armée rwandaise, écope de 30 ans de prison pour son implication dans le génocide de 1994. Le tribunal pénal international pour le Rwanda confirme la condamnation en appel. République démocratique du Congo, c'est aujourd'hui la fête de l'indépendance. Du pays, les forces armées ont organisé un défilé militaire inédit dans la capitale Kinshasa.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En Irak, les combats ont continué aujourd'hui à Tikrit contre les militants de l'État islamique en Irak et au Levant qui viennent de proclamer le rétablissement du califat islamique dans le large pan des territoires irakiens et syriens qu'ils ont conquis. Idrissa Seydoudia.
L'aviation irakienne a effectué des raids sur Tikrit pendant la nuit, poursuivant l'offensive que les forces gouvernementales ont lancée samedi pour chasser de la ville les insurgés. Selon un porte-parole officiel, l'armée irakienne a repris depuis hier soir le contrôle total de l'université de Tikrit et continue ses efforts pour libérer totalement la province et d'autres secteurs occupés par les djihadistes. Ces derniers ont dit que leur dirigeant, Abu Bakr al-Baghdadi, est aussi le leader du nouveau califat et ils ont demandé à tous les musulmans de faire acte d'allégeance. A noter que même les leaders d'Al-Qaïda, dont l'État islamique en Irak et au Levant est une émanation, avait au début de l'année désavoué al-Baghdadi et son mouvement.
En Syrie, des attaques de l'armée à Idlib, dans le nord-ouest, ont fait au moins 14 morts aujourd'hui. Ce bilan s'ajoute aux 27 personnes tuées hier dans cette même province, selon l'Observatoire des droits de l'homme syrien basé à Londres. Le bilan serait de 15 morts, dont des enfants. La majorité de la province d'Idlib est contrôlée par les rebelles, alors que son chef-lieu est tenu par le gouvernement. Les dirigeants de l'Ukraine, la Russie, la France et l'Allemagne ont discuté au téléphone aujourd'hui, à l'approche de la fin du cessez-le-feu dans l'est ukrainien, suite à un échange téléphonique de 2 heures entre les 4 dirigeants. Le président Petro Poroshenko a annoncé la prolongation du cessez-le-feu jusqu'au moins à minuit ce lundi. Selon le bureau du président français François Hollande, des résultats concrets sont attendus pour aujourd'hui. La Russie est menacée de sanctions additionnelles si elle n'use pas de son influence auprès des séparatistes de l'Ukraine. Et puis le président américain Barack Obama a promis d'agir par décret pour changer les politiques d'immigration du pays. Pays à après avoir appris que les adversaires républicains au Congrès ne voteront pas la réforme de l'immigration cette année. M. Obama a déclaré à la Maison-Blanche aujourd'hui qu'il en a assez d'attendre que la Chambre des représentants examine cette réforme approuvée il y a un an et qui devrait permettre aux 11 millions d'immigrants illégaux déjà aux États-Unis de devenir des citoyens. La suite de Sahel Plus, c'est maintenant.
Retour à Sahel Plus et nous ouvrons avec l'Égypte. Deux policiers ont été tués aujourd'hui dans des explosions à proximité du palais présidentiel du Caire. Le bilan fait aussi état de plusieurs blessés. Des djihadistes avaient auparavant annoncé avoir posé des bombes près du bâtiment. Jacques Aristide.
Ces attentats interviennent un an jour pour jour après les protestations monstres contre le président Mohamed Morsi, par la suite chassé du pouvoir par l'armée. Au total, deux déflagrations ont eu lieu ce matin, tandis qu'un troisième engin artisanal a été découvert dans le jardin présidentiel et a pu être désamorcé. Les services de sécurité passaient au pain une fin les environs du palais présidentiel après l'alerte donnée par les djihadistes du groupe Ajnad Massar eux-mêmes. Ils avaient averti avoir posé des bombes autour du palais, mais en affirmant ne pas vouloir les faire détonner pour ne pas tuer des civils. Ces attentats ont également eu lieu un mois après l'arrivée à la tête du pays de l'ex-chef de l'armée Abdel Fattah el-Sissi. Le nouveau président égyptien est critiqué non seulement pour la répression des frères musulmans, mais aussi l'opposition tant laïque que libérale.
Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique et sur le 93.1 FM, notre fréquence à N'Djamena. En ce début de semaine, nous revenons sur la FAA, la force africaine en attente, dans notre rubrique Analyse. C'est en 1958 que Kwame Nkrumah, premier ministre ghanéen et figure de l'anticolonialisme, émet l'idée d'une force de défense commune qui sera finalement adoptée par l'Union africaine en juillet 2000. 14 ans plus tard, c'est toujours le statu quo. L'Union africaine a-t-elle les moyens de son ambition? Attend-elle un financement onusien ou attend-elle un autre financement de la communauté internationale? Analyse de Pascal Lepotréma, expert en stratégie défense.
De plus en plus, aujourd'hui, on le voit depuis 2013 et encore plus depuis d'ailleurs le début de l'année 2014, les crises, les phases de déstabilisation, les conflits, même localisés, notamment en Afrique, nécessite de plus en plus d'effectifs, de casques bleus. Or, on le sait, au niveau des opérations multinationales, les pays occidentaux sont déjà au maximum de leur potentiel et il est clair qu'il y a effectivement depuis une bonne dizaine d'années toute une démarche qui est faite pour inciter les pays africains à prendre eux-mêmes en charge leur propre, je dirais, question de sécurité et de lutte contre les déstabilisations régionales. Alors, on a fait, nous, occidentaux et américains en particulier, un programme que l'on connaît. En France, c'est le programme RECAMP, hein, tout ce qui est renforcement des capacités africaines au maintien de la paix. Les Américains ont fait le programme ACOTA, ACRI, enfin voilà, l'acronyme a changé de nom, mais la logique est toujours la même, c'est d'inciter les pays africains eux-mêmes à faire des opérations de sécurisation, d'interposition, et de normalisation, c'est-à-dire de retour à la normale des situations de crise, et puis de leur faire prendre conscience de l'importance des lois internationales quant au respect des populations civiles et des prisonniers de guerre. Alors ça, c'est un point. Et aujourd'hui, effectivement, l'Union africaine semble vouloir passer un cap supérieur, et c'est-à-dire disposer véritablement d'une force opérationnelle multinationale pour gérer au mieux les questions sécuritaires du continent. Mais malheureusement, force est de constater que derrière les effets d'annonce, il y a quand même beaucoup de lenteur quant à réunir des effectifs conséquents et quant aux questions de financement de ces forces. Et on s'aperçoit que même si officiellement les pays africains s'en défendent, démentent cette approche, on s'aperçoit tout de même qu'ils attendent beaucoup de financement, notamment de la communauté internationale, de l'ONU, et puis sinon, attendent beaucoup des pays occidentaux. Or là aussi, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, depuis la fin des années 90, eh bien, la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis, pour ne citer que ces pays-là, font beaucoup pour former des soldats africains à ces mêmes opérations. Donc Il y a beaucoup de démarches avec des experts, des soldats, des opérateurs, des forces spéciales ou des forces conventionnelles qui travaillent avec les pays africains, avec des officiers, forment des officiers africains. Mais quand on regarde le résultat, quand il s'agit de mobiliser des forces pour faire face aux problèmes au Mali, dans le Sahel, pour faire face à la crise en RCA, en Somalie, eh bien là, malheureusement, ou même en République démocratique du Congo, on s'aperçoit que malheureusement, bien, les effectifs déployés ne sont pas en mesure de rétablir l'ordre dans la durée. Il faut toujours que les Occidentaux soient à la manœuvre.
Pascal Le Potréma, expert en stratégie défense. Nous sommes au Burkina Faso pour notre dossier, le Faso où il est désormais obligatoire d'assurer sa voiture. Une assurance censée aider les automobilistes en cas de sinistre, mais dans la réalité, beaucoup de conducteurs n'arrivent pas à se faire rembourser. Reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Wonogo.
Au Burkina Faso, les véhicules à deux roues ne sont pas soumis à l'obligation d'assurance. Par contre, les quatre roues le sont. Mais avoir une police d'assurance n'est pas une garantie quand survient un sinistre. Écoutons l'histoire de Seydou Nikiema Di Nixon avec son assureur après un accident.
J'ai renversé un motocycliste et après les constats d'usage, j'avais tort. J'ai dit au policier, bon, d'accord, j'ai tort, mais mon assurance va prendre en charge. Et l'intéressé en question a marché pendant très longtemps. Très longtemps pour qu'on puisse résoudre son problème. En son temps, quand je m'assurais, on me faisait savoir que même si j'avais eu un petit bobo, que j'ai tort ou raison, l'assurance allait réparer ma voiture. Et je me suis renseigné par rapport à ça. On m'a fait purement et simplement savoir que non, dans ce cas-là, c'est aux deux tiers la moto de l'individu que j'ai renversé qui sera réparé et moi, je n'avais qu'à me débrouiller de moi-même.
Voilà pourquoi Issa Kalengani a, lui, choisi la gamme la plus basse des assurances, juste pour respecter l'obligation. On écoute Issa Kalengani.
Oui, généralement, cette assurance-là permet de couvrir les charges sur le véhicule ou bien sur celui que vous avez cogné. Bon, mais il faut dire, généralement, en tout cas, ce qui me concerne, j'attends rarement de rentrer en possession de ces droits-là lorsque je suis en difficulté parce que ça prend énormément de temps. Ça prend. C'est des courses de la papier-série. Et donc, généralement, on s'entend au bord de la route pour régler. Entre accidentés, on s'entend pour que, bon, on se règle les petits problèmes et puis on circule. L'assurance, c'est essentiellement pour ne pas avoir de problème avec la police.
Nous sommes allés vers une compagnie d'assurance pour comprendre pourquoi les assurés ont souvent des difficultés pour leur prise en charge quand il y a un sinistre. Soumaïla Traoré, le chef du service auto à Jackson Assurance, s'explique.
Les gens n'ont pas tendance à lire ce qui se trouve dans les contrats d'assurance, ce qui fait que lorsqu'il y a un sinistre, la plupart des assurés tombent des nues. Sinon, je dirais tout de go que les exclusions sont mentionnées dans les conditions particulières ainsi que dans les conditions générales. Et cela en caractère gras et apparent. Dans la plupart des compagnies d'assurance, notamment Jackson Assurance, lorsqu'un assuré vient s'assurer, nous prenons le temps de l'expliquer et de le faire comprendre à quoi il s'engage.
Pour trancher, voici ce que dit Mamadou Traoré. Il est le bâtonnier de l'ordre des avocats du Burkina.
Au moment où vous souscrivez, ce qui vous intéresse, vous, assuré, c'est de savoir combien je paye. Et quand vous avez payé, vous pensez que vous êtes quitte avec l'assurance ou avec la réglementation qui impose cette assurance. Mais maintenant, lorsqu'il y a un sinistre, au moment où l'assurance doit jouer, qu'on se réfère au contrat, le plus souvent, on se rend compte que l'assurance a prévu tellement d'exclusions que le reste qui peut être pris en charge est insignifiant. Est-ce la faute de l'assurance? Est-ce la faute de l'assuré? Les torts sont partagés parce que est-ce que l'assuré a la possibilité de discuter? Peut-être pas de toutes les clauses, mais de certaines clauses. Et c'est ce qui ne se fait pas et c'est l'un des grave problème. Je crois qu'il y a des clauses parfois, soit abusives, soit en tout cas qui ne méritent pas de figurer dans un contrat d'assurance courant comme l'assurance auto. Et il y a des franchises parfois qui sont très importantes. C'est la raison pour laquelle lorsque vous avez un bobo, l'assureur, en vous expliquant ce que vous avez signé, vous vous rendez compte que vous n'aurez jamais dû signer.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, la voix de l'Amérique.
Ouagadougou, vous nous écoutez sur le 102.4 FM. En Guinée, les autorités sanitaires tentent une nouvelle fois de rassurer les Guinéens face à la fièvre hémorragique Ebola et sollicitent la sensibilisation des leaders religieux, chasseurs et tradis praticiens. Écoutez le reportage de notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
Devant les journalistes, les autorités sanitaires guinéennes ont tenu à répondre à la déclaration de l'OMS selon laquelle l'épidémie serait hors de contrôle. Pour le docteur Sakoba Keïta du comité de riposte contre Ebola, il s'agit de lire la situation dans la sous-région.
Il y a d'abord le fait que les deux pays voisins, les mesures de contrôle sanitaire ne sont pas en place. Ils n'ont pas de centre de traitement. Le suivi des contacts n'est pas aussi bien organisé comme chez nous. Donc, qu'est-ce qui se passe le long des frontières? Les malades quittent de l'autre côté pour venir se faire soigner chez nous. Actuellement, dans notre centre de traitement de Guédou, les 30% des malades sont des Sierra Leone.
La chaîne de contamination a touché de nouvelles zones, une nouvelle situation qui demande des ressources. Médecins sans frontières annonce l'arrivée de la troisième vague de médecins, d'infirmiers et d'hygiénistes. Marc Poncin de MSF.
Donc le problème, ce n'est pas tellement le nombre de cas qui est à prendre en charge, c'est le nombre de foyers où on doit déployer une structure de santé. Et c'est là où on a atteint nos limites de capacité. On ne peut pas mettre un médecin, même si c'est un très bon infectiologue, qui n'a jamais travaillé avec Ebola, parce qu'il sera vraiment à risque de se contaminer à l'intérieur de la structure.
La Guinée fait face à des réticences. Certains malades fuient l'hôpital, d'autres sont cachés et d'autres encore pensent que la maladie n'existe pas. Le ministre guinéen de la Santé insiste sur la sensibilisation. Le docteur Rémi Lama.
Nous sommes en période hivernale, nous sommes en vacances. Mettons en contribution nos frères. Nos anciens qui vont en vacances pour sensibiliser davantage. Il faut de la bonne collaboration, il faut de la sensibilisation pour que la population comprenne que réellement la situation, la maladie, elle est là.
La fièvre hémorragique à virus Ebola qui est apparue au début de l'année a fait 182 décès, dont 20 agents de santé. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Joselle Morissin. À la console, Joe Gill. Au micro, Clermont Agibourg. Nous nous quittons avec Mori Kanté et son titre, La Guinéenne. Mori Kanté sera en concert le 8 août dans le cadre du festival Art d'Afrique au Vence en Ardèche, en France. Rendez-vous demain, 21h, temps universel sur La Voix de l'Amérique ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel Plus. Bonne soirée et bonne nuit à tous.
Tu es mon remède, tu es mon médicament quand j'ai le chagrin. Quand j'ai mal, tu es mon remède, tu es mon médicament quand j'ai le chagrin. Yala batilu baki kumi no ne ye wulero bi lumbe lumbe.
aduna woro feu famma alale musulu sarala